grand-père, ma grand-mère, maman et moi, nous nous rendions avec nos paquets chez un transporteur. En cours de route, sur notre droite et notre gauche, ce n'était qu'un défilé de vieux, de femmes, d'enfants mêlés à une colonne massive d'autobus et de bestiaux, et au milieu de la chaussée, un encombrement formidable de voitures et de charrettes. Tout à coup, une dizaine d'avions apparurent assez haut dans le ciel. Ils tournoyèrent, descendirent presque au ras du sol et remontèrent. Puis, longeant la route, ils nous mitraillèrent. Alors, arrêtant le cheval qui faisait de grands écarts, notre conducteur nous fit descendre et nous nous couchâmes sous la voiture. Au bruit des détonations, le cheval hennit, des bêtes lâchées beuglèrent et se sauvèrent dans le pré. Bonjour. Ce texte que je viens de vous lire est extrait d'un livre qui vient de paraître aux éditions Lafon sous la signature d'Octavie Merlier. Octavie Merlier est près de moi et je voudrais vous demander tout de suite, mademoiselle, de m'expliquer, enfin d'expliquer aux téléspectateurs, puisque moi je le sais, comment ça se fait qu'un livre qui paraît sous votre signature, pour la première fois, il n'y a pas une ligne, à part la préface, il n'y a pas une ligne qui est de votre cru. D'où vient ce texte? D'où viennent ces textes?
Ces textes viennent de récits que les enfants m'ont faits en composition française dans la classe de 4e de collège d'enseignement général. Ça, parce que
oui, je vous en prie.
J'ai commencé à les leur donner à faire en novembre 44. Or, en octobre 44, la rentrée n'a pas été faite comme d'ordinaire. Mmh. Nous avons causé de la guerre, elles étaient avides de causer de la guerre. Certaines avaient participé à la construction des barricades. Alors, comme au programme de la classe de 4e, en composition française, il y a le récit,
oui.
J'ai pensé leur faire plaisir en leur donnant à faire le récit d'un événement de la guerre dont elles avaient été témoins. Et ce sujet leur plut beaucoup. Il leur plut tellement que lorsque, dans le courant de l'année, je leur donnais à faire un récit dont elles choisiraient librement le sujet, plusieurs me remirent un nouveau fait de la guerre,
oui,
dont elles avaient été témoins.
Alors cet exploit, vous l'avez renouvelé 4 années de suite dans votre
classe. 4 années de suite, oui, dans les 2 classes parallèles de français.
C'est ça. Et vous avez donc gardé par-devers vous ces rédactions pendant un certain nombre d'années.
C'est-à-dire que je faisais recopier les meilleurs devoirs pour servir de modèle aux cadettes.
Oui.
Et alors, j'en ai rendu en fin d'année qui ont été perdus. Et puis, j'ai gardé les copies avec d'autres que certaines n'avaient pas réclamées. Et voilà comment le livre est né.
Comment se fait-il que vous aviez gardé ces copies, mademoiselle? Parce qu'elles vous touchaient particulièrement? Pourquoi? C'est rare qu'un professeur...
C'est-à-dire que, oui, j'avais trouvé qu'elles avaient un intérêt historique.
Oui.
Alors je les avais gardées, elles ne les avaient pas réclamées. Il y en a, vous savez, à la fin de l'année, les enfants partent souvent avant la date des vacances.
Oui.
Alors elles n'avaient pas réclamé leurs devoirs et ces devoirs m'étaient restés. Alors, j'ai trouvé qu'il serait dommage de les détruire parce que je leur trouvais un intérêt tout à fait historique.
Alors ça, vous êtes à la retraite, mademoiselle, depuis 22 ans. Ce livre vient de paraître, vient
oui.
de sortir. Donc, vous avez recueilli les meilleurs. Vous avez encore sélectionné les meilleurs parmi les meilleurs,
oui,
je suppose.
Oui.
Et vous en avez fait un recueil, fait un livre qui paraît aux éditions Julliard, je viens de le dire, sous le titre « Rédaction », la drôle
oui.
de guerre, l'occupation, etc.
Oui.
Je voudrais vous présenter, mademoiselle, deux petites jeunes filles. D'abord, mademoiselle Paludetto, qui est tout près de moi, qui a fait 300 kilomètres pour se joindre à nous.
Comme c'est gentil.
Qui a 14 ans, c'est-à-dire l'âge qu'avaient vos élèves.
L'âge qu'elles avaient.
Et puis, une autre petite jeune fille de 14 ans, mademoiselle Lost. Elles sont toutes les deux en classe de 4e et toutes les deux intéressées par cette période.
Oui, bien sûr.
Mademoiselle Paludetto, qu'est-ce que vous savez de cette période? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la guerre, le mot guerre?
Moi, j'en ai surtout entendu parler chez moi, par mes grands-parents et mes parents. Alors, je vois vraiment que, pour moi, ça fait tout de suite une grande chose, vraiment horrible, quoi. Qu'à 14 ans, on puisse vivre une guerre, c'est vraiment, vraiment catastrophique.
Et vous, mademoiselle?
J'en ai lu des livres, puis... Mon père, il m'a raconté aussi des événements.
Vous pensez que c'est une idée, une bonne idée d'avoir fait faire des rédactions à ces jeunes filles? Est-ce que vous pensez que vous, à travers cette lecture, ça va vous apprendre quelque chose?
Oui, certainement.
Alors écoutez, mademoiselle, la surprise ne serait pas complète si nous n'avions pas réuni, bien sûr, certaines de vos élèves.
Oh oui, c'est très gentil.
30 ans après, 28 ans ou 30 ans après, elles se souviennent bien sûr de vous. Vous vous souvenez sûrement d'une d'elles. Vous aviez gardé des contacts avec certaines?
Non. parce qu'elles se sont mariées, elles se sont éloignées, il y en a qui habitent en banlieue. Je crois que nous en avons même une qui est venue de Londres. Josette Gonneau est venue de Londres.
Elle était venue vous voir?
Non, mais je crois qu'elle est venue de Londres pour assister aujourd'hui à l'émission.
Elle assiste à l'émission.
Je crois.
Écoutez, je vais vous dévoiler petit à petit nos surprises, nos batteries. Bon, nous allons écouter chacune d'elles nous donnant lecture de son récit ou d'un de ses récits, parce que certaines ont plusieurs récits
dans le livre. Oui, Marthe Demers en a quatre.
Oui, on va les écouter si vous voulez les uns après les autres et nous verrons si vous les reconnaissez. Alors Jacques Garra est quelque part dans le coin du studio, hors notre vue. Et il est avec
nous avons avec nous effectivement cinq des anciennes élèves de Mademoiselle Merlier qui sont là cachées quelque part dans la coulisse et que nous allons introduire l'une après l'autre, mais en prenant soin tout au début de cette émission de ne pas lui présenter tout de suite. Elles vont être cachées les unes des autres par un paravent. Alors je vais en coulisse chercher la première. C'est exactement cette ancienne jeune fille dont parlait Mademoiselle Merlier, qui s'appelait à l'époque Marthe, je crois bien, et qui est aujourd'hui une mère de famille, n'est-ce pas, madame?
Oui.
Vous habitez aujourd'hui
Sannois,
c'est-à-dire près de Paris.
Oui.
Vous êtes mère de famille à votre tour.
Oui, c'est exact.
Et vous n'avez jamais revu depuis bientôt 30 ans, plus de 30 ans.
31 ans, oui.
Mademoiselle Merlier.
Pas une seule fois.
Eh bien, il se trouve que, comme nous le disions à l'instant, la rédaction que vous aviez faite vous-même est une de celles que Mademoiselle Merlier a retenues.
Oui.
Nous avons à notre tour retenu votre rédaction. Nous allons vous demander, s'il vous plaît, pour nous replonger dans l'ambiance de cette époque, de nous la lire, nous allons essayer de l'illustrer et puis ensuite nous demanderons à Mlle Merlier si elle vous a reconnue, puis bien entendu vous la retrouverez dans un instant. Nous vous écoutons.
Avec plaisir. C'était le 22 août et il était 3 heures. Nous étions mes parents et moi sur le balcon quand au coin de l'avenue des Gobelins et de la rue Monge apparut une voiture de la police avec le haut-parleur et les lettres FFI se détachant en blanc sur la portière bleu marine. Tiens, me dit mon père, que vont-ils annoncer? Il n'avait pas plutôt dit cela qu'une voix sonore faisant arrêter les rares passants cria « Tous aux barricades! Faites des barricades! Empêchez les boches de fuir! Tous aux barricades! Enfants, femmes et vieillards !» À peine la voiture avait-elle démarré que de chaque immeuble arrivèrent en foule les sacs de sable de la défense passive, des tonneaux et leurs cercles, des baquets et des cuves. Chacun sortait de son logis pour collaborer à cette défense unanime. « Maman, fis-je, puis-je y aller ?»« Non, répondit-elle, il y a du danger. » Mais répliquai-je, les autres y vont bien. Oui, mais ils sont plus vieux que toi. Apercevant alors un jeune garçon de 9 à 10 ans qui apportait péniblement un sac de sable, j'observai. Regarde, il y va bien, lui. C'est assez, me dit ma mère. Je savais bien que papa ne me refuserait pas. Je me tournai vers lui, les yeux pleins de larmes. Viens, me dit-il, descends avec moi. Je passai à la hâte une blouse sur ma robe. Je descendis 4 à 4 l'escalier et quittai mon père qui alla retrouver son camarade sur la barricade aux abords de l'école Monge. Toujours en courant, j'allais me mettre à la file et passais à mes voisins les sacs et les pavés qu'on me tendait. Sans toutefois arrêter de travailler, je regardais autour de moi pour bien graver cette journée dans ma mémoire. Le marchand de vin portait des tonneaux et des fûts, les faisant rouler un à un devant lui. La crémière assise sur le bord du trottoir, les manches de sa blouse relevées jusqu'au coude, frappait à grands coups de marteau des clous dans une planche pour crever les pneus des voitures allemandes. La charcutière, elle, affolée, se hâtait de fermer les volets de sa boutique, tandis que son mari, rouge et essoufflé, rapportait d'onde ses os une grille d'armes. Tous les habitants du bas de la rue Monge et de la rue Mouffetard étaient réunis, commerçants et clients, amis et ennemis, tous fraternisaient. Quant à moi, rouge, en nage, je pliais sous le poids de l'eau pavée. Soudain, un guetteur qui embrasait du regard toute l'avenue des Gobelins cria « Planquez-vous, v'là les boches !» Je laissais tomber la lourde pierre que je tenais dans les mains, sans regarder où elle tombait, et me sauvais dans l'entrée de l'immeuble où j'habitais. Maman m'attendait au pied de l'escalier. Je croyais que tu n'aurais pas eu l'idée de venir ici, me dit-elle, et passant sa main sur mon front, « Dieu que tu as chaud !»« Qu'importe, fis-je, c'est pour eux, pour les hommes de la résistance. » Mais l'alerte était passée. J'échappai des mains de maman et rejoignis les travailleurs déjà de retour. Par trois fois, nous eûmes besoin de nous mettre à l'abri derrière les portes cochères. Enfin, la barricade fut terminée. Ma mère m'appela d'un geste. Aussitôt, je quittai la rue et remontai pour goûter. Puis, une tranche de pain à la main, j'allais regarder du balcon le travail accompli en si peu de temps. Mon père rentra presque aussitôt après moi. « Petit père, lui dis-je, je suis bien contente. Souvent, je pensais avec tristesse à tous ceux qui se battaient là-bas sur le front, aux vaillants petits gars de Leclerc surtout, et j'étais peinée de ne rien pouvoir faire pour eux. J'ai pensé à tout cela en construisant cette barricade, et j'étais heureuse de pouvoir dire que j'avais contribué à servir la patrie. « C'est bien, me dit papa en souriant. Tu es une vraie patriote. »
Il va sans dire, madame, que cette histoire est parfaitement authentique.
Authentique, oui.
Quand vous l'écoutez, quand vous la revivez, ça va.
J'ai l'impression d'y être, encore, 31 ans près.
Voulez-vous que nous fassions encore mieux?
Attendez, Jacques, eh bien, je voudrais d'abord demander à mademoiselle Merlier, qui est près de moi, qui est très émue, je dois le dire. Mademoiselle Merlier.
C'est Marthe de Mère.
Vous l'avez pas revue?
Non, je ne l'ai pas revue, non.
Comment était-elle?
Oh, une petite blonde, avec des yeux qui voyaient tout. Aussi, elle nous a fait 4 heures et 6. Elle était partout.
Eh bien, elle est là.
Elle est là.
Nous allons confronter vos souvenirs, mademoiselle, avec la réalité d'aujourd'hui.
C'est vraiment une grande minute.
Ah. Alors, vous êtes contente d'être venue?
Oh oui, très. Vous savez, vous n'avez pas tellement changé.
Oh, un petit peu tout de même.
Non, oh non. Non, même pas. Même la voix,
vous êtes toujours la même, je vous reconnais.
C'est vrai?
Oui.
Très gentil. Oui.
Eh bien, écoutez, mais Madame Labu, qui est Madame, vous êtes Madame, on va toutes pleurer. Aussi, même les petites ont les larmes aux yeux. Bon, eh bien, cette surprise, mademoiselle, nous vous l'avons donc multipliée. Nous allons encore ensemble écouter un autre récit. Ouais. Jacques, après lui, une autre élève.
Attendez, je vais la chercher.
Allez la chercher,
Alors, nous avons avec nous maintenant quelqu'un que nous connaissons sous son prénom seulement, parce que le prénom n'a pas changé, c'est l'ancienne Liliane.
Oui,
vous aviez quel âge à l'époque?
14 ans aussi.
Bien. Voulez-vous, s'il vous plaît?
Oui. Alors, je précise que ce récit se situe en Normandie, dans un village de l'Eure. Depuis quelques heures, mes grands-parents dorment, mais je ne peux trouver le sommeil. Voilà quelques jours, des Allemands se sont installés au château du village, après avoir maltraité et arrêté les bourgeois. Tout à coup, une moto stoppe devant chez nous et la porte du jardin est violemment secouée. Aussitôt, j'appelle grand-mère. Mais, comme je la réveille souvent, elle se contente de répondre « Dors donc !» Mais des pas de bottes se rapprochent, alors elle se lève. À peine a-t-elle ouvert la porte que déjà plusieurs Allemands envahissent la cuisine. Ils commencent à s'exprimer d'un ton agressif en leur langue. Ils viennent dans la chambre, font lever grand-père et moi-même. Ils vont dans la cour et nous font comprendre de les suivre. Là, nous voyons des flammes. C'est que dans la journée, nous avions brûlé les mauvaises herbes du jardin et croyant le feu entièrement éteint, nous nous sommes couchés sans crainte. Mais la nuit, le brasier s'est ranimé et la lueur qui s'aperçoit d'assez loin a attiré l'attention des Allemands. Ils vont chercher des râteaux sous le hangar et éteignent le feu. L'officier remue les cendres en prenant le creux de sa main. Ils braquent tous leurs lampes électriques sur les restes du brasier et les examinent de très près. Ils discutent entre eux, puis l'officier nous dit « Signaux, Tommy ?» Nous leur répondons par un signe négatif de la tête. Ils nous parlent déjà de commandant Tour. Mon grand-père leur fait comprendre que le feu a été allumé dans la journée et que nous ignorions qu'il s'était ranimé. De son côté, ma grand-mère leur dit qu'elle a une petite fille en me montrant du doigt. Alors, ils nous donnent une amende et laissent un papier imprimé en allemand, sans doute comme reçu. Puis ils partent pas bien convaincus de notre innocence, car ils discutent encore fortement. Nous étions très soulagés de leur départ, que nous avions passé un moment d'inquiétude.
Eh bien voilà, c'était Liliane que nous voulons entendre. Qui était Liliane?
Liliane Blanadé. Ma première de classe.
Eh bien, votre première de classe est devenue institutrice à son tour, mademoiselle.
Vous en prie, restez assise.
N'est-ce pas, madame Lambray?
Comment, madame?
Vous êtes devenue...
Merci d'avoir pu fixer ce récit.
Oui.
À jamais.
C'était mérité.
Vous étiez là pour le micro, madame. Attendez. Remontez-le, voilà. Vous étiez la première dans la classe de... Mais vous n'êtes pas la même promotion.
Ah, elle a toujours tenu la tête de la classe. Toujours la première.
Mes élèves écoutent.
Alors, comment?
Du mes élèves écoutent, je crois.
Alors, eh bien, c'est la vérité. Oui.
Vous êtes maintenant madame institutrice, directrice d'école.
Oui, au Chenet, à l'école Molière.
Vous vous inspirez de votre ancienne institutrice pour faire votre classe?
Oh, je pense, oui, un professeur, vous savez, de français. Et nous fait à jamais et j'essaie à mon tour d'inculquer.
Certainement, elle doit être une institutrice. Vous êtes directrice d'école.
Oui,
mais oui, mais vous devez faire certainement les choses très bien. Tout était parfait chez elle.
Eh bien, Jacques nous attend pour la troisième élève. c'est Madame Guillot.
Chut, chut, ne le disons pas, c'est Janine.
C'est
la petite Janine. Elle avait 14 ans, quelques années ont passé. Et vous nous lisez, s'il vous plaît, à votre tour, le texte que vous aviez, à vous entendre dans le micro, que vous aviez adressé à Mlle Merlier.
Les Allemands sont encore sur notre territoire. Il faut les chasser, mais nos FFI n'ont plus d'armes. L'ordre est venu d'élever des barricades. Tous les Français se mettent au travail. Femmes, vieillards, enfants transportent des pavés. Les plus forts abattent des arbres des avenues. Les sacs de sable de la défense passive ont été descendus et très vite empilés, de façon à former une petite muraille. Toute une journée de travail dans toutes les rues de Paris pour retarder l'ennemi. Pendant ce temps, place du Panthéon, un combat acharné se déroule. Les Allemands veulent reprendre la mairie du 5e arrondissement. Quelques Allemands ont été faits prisonniers. Il en reste encore une quinzaine montés sur un char. La bataille redouble. Les ennemis vont au canon contre les simples fusils ou mitraillettes que portent nos soldats. Les jeunes gens courent, tentent d'encercler ce monstre terrestre. Un coup résonne sur la place solitaire. Hélas, un de nos héros vient d'être blessé, et tandis que la Croix-Rouge arrive en grande hâte, le combat a repris plus terrible encore. Des soldats tombent. Au carrefour d'une rue, un de nos jeunes, de 15 à 16 ans, portant déjà son insigne tricolore, passe en sifflotant. Sans perdre courage, il s'approche du char, qui est seul à lutter contre les coups qui le harcèlent. Il s'avance prudemment. Nul ne fait attention à lui. C'est le moment. Il retire quelque chose de sa poitrine, le lance sous le char et part en courant et crie « Sauvez-vous, sauvez-vous !» Il se réfugie dans une maison. La rue est déserte. Une nouvelle détonation a suivi. Le char vient de sauter. Notre garçon tenait caché dans sa chemise une bouteille explosive et au risque de sa vie, il a soulagé nos FFI qui, sans lui, auraient été forcés d'abandonner la lutte par manque de renfort. Notre héros fut félicité et tandis qu'il était entouré, ses yeux seuls voyaient le char qui se consumait peu à peu, détruisant les derniers adversaires. Ce jeune garçon est un des défenseurs de Paris. Il a mérité la récompense que bientôt il portera glorieusement.
C'est une scène que vous ayez vécue ?
Oui, je l'ai vécue. J'habitais tout près de la place du Panthéon. Et je revois très nettement la scène. C'est assez curieux d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'on oublierait ce genre de choses. Et pas du tout, non, c'est resté aggravé, vraiment.
Vous aviez quel âge ?
C'est Janine Bourgois.
13-14 ans.
Attendez, nous avons la réponse avant d'avoir posé la question.
Yes, mademoiselle.
Janine Bourgois.
C'est Janine Bourgois, oui. C'est pour nous, c'est Madame Guillot.
Ah, c'est émouvant de vous retrouver.
Eh bien, moi aussi.
C'est une grande journée grâce à vous.
Ah ben écoutez, c'est mérité.
Vous saviez que vous étiez dans... Mettez-vous là, madame, asseyez-vous là. Vous saviez que vous étiez édité?
Non, c'est à la fois redoutable de penser ça. Nos enfants vont lire tous ces récits et d'ailleurs, j'ai un de mes fils qui m'a dit «
C'est très curieux dans toutes les pages que je vois que vous parlez toutes nos soldats, notre patrie. » Et c'est ce qui l'a vraiment frappé, cette façon que nous avions de dire... nos choses à nous, parce que vraiment, on participait beaucoup. On était pris, quoi. C'est normal. Hein.
Vous avez beaucoup d'enfants ?
J'ai 3 enfants.
3 enfants, c'est bien ça.
2 garçons et une fille.
Ah, ouais. Pour la patrie, même.
Oui, vous aussi.
Une 4e élève.
Vous aussi ?
Deux. La promotion après.
Mademoiselle Merlier, une 4e de
une
vos
4e,
élèves.
Oui.
Écoutez, ne alors, disons pas son nom avant, Jacques.
Non, nous disons le prénom, c'est Josette.
Ah ben oui.
Non, bah, vous avez
voici,
tout dit.
Vous allez nous lire, s'il vous plaît, comme vos anciennes camarades, votre texte, et puis ensuite nous jouerons devinette.
C'est-à-dire, j'ai reconnu son récit. Hein.
Il fait beau temps certaine. Aujourd'hui, aussi ce hasard de temps à entr'ouvrir les fenêtres. Mais nous ne sommes pas libres. Les Allemands en fuite déchargent leur haine si longtemps concentrée contre les paisibles personnes qui les regardent partir avec un soulagement compréhensible. Personne ne s'aventure aux fenêtres ou, dans le cas contraire, au moindre bruit de moteur. Disparition magique. La fée Prudence agit. Plus un humain visible, les volets se ferment, la ville semble inhabitée. Ce matin, nous regardons avec anxiété l'avenue déserte. Soudain, au loin, un bruit grossit, s'amplifie. Nul doute, un convoi ennemi s'approche. La confirmation nous en est donnée par un vaillant compatriote. Immédiatement, plus un bruit. Les respirations s'arrêtent. Un coup d'œil rapide et la peur s'empare de nous. Nos vaillants soldats, aidés de jeunes, ont dressé des barricades afin d'empêcher l'ennemi de pénétrer à l'intérieur de Paris. Les tanks Bosch, car hélas, ce sont des tanks, s'arrêtent à l'angle de notre rue. Les mots sont impuissants pour traduire notre angoisse. les cœurs battent à grands coups dans les poitrines. Un Allemand descend, aperçoit les barricades et se met à vociférer. Heureusement que nous ne connaissons pas cette langue, car sans doute, ces paroles ne seraient pas pour nous rassurer. D'un regard qui fait frémir les plus hardis, ils inspectent les alentours, puis ils remontent dans leur char. Un silence angoissant plane, mais à ce silence succèdent deux détonations terribles. En l'espace d'une minute, tous les locataires se trouvent réunis sur le palier. On se presse vers la cave en faisant le moins de bruit possible. Malheureusement, la fusillade continue, plus dense que jamais. Dans la cave, ce sont des plaintes et des gémissements. On est irascible et ce ne sont que des chutes, mettez-vous donc. Le calme revenu, nous remontons. Mais un regard lancé vers la fenêtre nous détrompe. Le combat recommence, plus actif qu'auparavant. Des forces françaises de l'intérieur tirent de l'immeuble situé en face et c'est une riposte incessante. Un autre char tire sur les barricades, peine perdue, mais tout a une fin et celle-là était attendue avec impatience. Les chars tournent sur eux-mêmes et reprennent l'allure un peu moins fière, le chemin du retour. Comme partout ailleurs, ils laissent la preuve de leur sauvagerie, deux coups d'antichar sur une façade de maison. La tourmente passée, les fenêtres s'ouvrent, la vie reprend. Chacun se sent soulagé et plein d'espoir. Espoir bien placé, puisque deux heures après, un de nos effets-fils surgit et crie cette phrase tant espérée. Ils sont là. Mots simples qui peuvent se comprendre par cette phrase. Nous redevenons français.
Ce texte est du 4 novembre 1944. Est-ce que vous vous souvenez de la note que Mlle Merlier vous avait donnée? Vous ne vous souvenez pas? Elle notait sévèrement, c'est ça? Hein?
Non, je crois, en relisant mon texte, elle devait être très indulgente.
J'aimerais que Mme Epstein nous décrive le souvenir qu'elle a de Mlle Merlier, Jacques.
Comment était Mlle Merlier, mettons, quelques années plus tôt?
Je la revois très douce, et quand elle nous donnait des explications, la tête légèrement inclinée, pensive, et une excellente professeure.
Comment était cette jeune élève, mademoiselle? C'était Josette, elle avait 15 ans.
Une grande fille, faisant des devoirs. Elle en a fait encore de meilleurs que celui-là, Josette. Je croyais que vous aimiez me lire, justement, la construction de la barricade. Alors, vous êtes venue de Londres.
Ah, j'habite aussi Paris, madame. Ah, vous êtes tout le temps. Quelle joie, mademoiselle, de vous voir.
Tout va bien, mademoiselle Merlier?
Comment?
Tout va bien?
Bien sûr.
On en écoute une cinquième?
Ah, bien sûr. Mais je me demande si je vais la reconnaître. Vous ne m'avez pas dit qu'il venait en cinquième.
Bien, c'est une surprise. La seule chose que nous dirons, c'est qu'elle vient du Midi. C'est la méridionale de la famille. C'est Jacqueline. Nous allons vous écouter tout d'abord, Jacqueline. Permettez-moi de vous appeler comme ça pour préserver l'anonymat.
Oui.
S'il vous plaît.
Le matin de bonne heure, nous allâmes rue Monge voir défiler les troupes de l'armée Leclerc. Juchés sur les barricades, nous les regardions attentivement, le visage rayonnant. Ils étaient là, depuis 5 jours qu'ils n'avaient pas dormi, pour venir délivrer Paris au plus vite. Mais ils ne montraient guère leur grande fatigue. Ils répondaient aux bravos de la foule par de gentils sourires. Alors notre joie redoublait. Des femmes, des enfants s'approchaient des chars pour aller leur serrer la main et leur offrir des fleurs. Sur tout le long de la route, ils cueillaient au passage des jeunes filles enthousiastes et heureuses de monter sur un tank américain. La police avait revêtu son uniforme bleu. Un des agents qui faisait le service d'ordre était blessé à la main et bien pâle. Mais il était là aussi pour recevoir nos libérateurs. Soudain, un coup de sifflet strident. La foule, apeurée, s'enfuit comme dans une envolée. C'est la panique. Tout le monde court au refuge dans les couloirs des immeubles voisins. C'était la fusillade qui commençait. Des traîtres tiraient des fenêtres sur les troupes qui passaient. Alors les chars s'arrêtèrent et ouvrirent le feu sur les adversaires. Ils mirent en batterie les mitrailleuses qui crépitèrent. Dans l'affolement, je perdis de vue mes parents. Dans le couloir où je m'étais abritée, tout le monde était anxieux. Une femme disait ses prières, d'autres gémissaient. Certains étaient assez courageux. Prudemment, je passai mon nez dehors et je vis distinctement les balles qui partaient du canon. On ne s'entendait plus parler. Les vitres tombaient avec fracas, des morceaux de mur s'écroulaient. Cette angoisse dura au moins un quart d'heure, puis la fusillade cessa. Les chars dévièrent leur route, Ils passèrent par les petites rues. J'en profitai pour m'en aller chez moi. Là, je retrouvai mes parents, et aussitôt, nous retournâmes voir défiler nos soldats, rue Quatre Fages, où ils cantonnèrent 2 jours.
Est-ce que, madame, vos enfants, les enfants que vous avez maintenant, ont lu ce texte?
Oh oui, ils l'ont lu, et non seulement ils l'ont lu, mais ils l'ont reconnu. Parce que c'est une histoire que je leur avais déjà racontée. Mmh. Et c'est mon jeune fils qui l'a retrouvée dans le livre. Et le passage où la femme de... Enfin, quand je dis une femme disait ses prières, il m'a dit, mais maman, tu nous l'as raconté.
Et quelle note, mademoiselle Merlier, vous avez donnée pour
Aucune idée, parce que je ne me souviens absolument pas avoir fait le devoir. Le récit, je l'ai vécu, je m'en souviens, mais le devoir, je ne m'en souviens pas. Enfin,
Alors, attendons de voir si elle vous a reconnu.
Oui, je reconnais le récit que j'avais apprécié, mais je ne retrouve pas son nom de famille en ce moment.
Ah. Oui. C'est Jacqueline.
Jacqueline, mais son nom de jeune fille.
Eh bien, justement, c'est ce que nous vous demandons.
Je le cherche.
Eh bien, nous vous la présentons, en tout cas.
Oui,
mais
le
C'est Jacqueline Lachaise.
Ah bon.
Je suis heureuse de vous retrouver là. Et c'est tellement
oui,
inattendu.
Moi aussi, inattendu. Jacqueline Lachaise.
Oui, Jacqueline Lachaise.
Oui, enfin, je me souviens très bien de vous.
Hein. Moi aussi.
Oui, oui.
Moi
mais aussi. Le temps, je le cherchais tout à l'heure, oui. Quand vous avez
mais d'ailleurs,
dit,
je
votre devoir m'avait frappé.
Oui.
Oui. Mes félicitations.
Écoutez, mais je suis très heureuse.
Tenez, mettez-vous, madame, ou entre vos deux condisciples.
Il y a de la place.
Vous là, Jacques? Alors là,
ici, madame.
Tenez, madame. Voilà. Comme à l'école. Eh bien, mesdemoiselles, je voudrais, au milieu de cette émotion générale, vous demander vos impressions à vous. Qu'est-ce que tous ces devoirs? Vous avez écouté mademoiselle Paludetto?
Oui, c'est vraiment émotionnant. Que ces dames qui nous lisent les récits 31 ans après la guerre, les relisent et nous disent ce qu'elles ont ressenti quand elles avaient 14 ans, c'est vraiment émotionnant et on peut pas...
Est-ce qu'on dit émotionnant, mademoiselle Merlier?
Émouvant.
Voilà. Vous pensez que c'est une bonne idée qu'a eu une dame de leur faire des devoirs comme ça? Vous pensez que ça a créé un lien supplémentaire? Oui, mademoiselle Lost.
Oui, puis, c'est ce que je trouve aussi, c'était il y avait très patriotique. C'était très patriotique, ils parlaient tous comme.
C'est ça qui vous a frappé le plus?
Oui, ils sentaient bien français. Enfin, c'était bizarre.
Très...
C'est ça, oui, madame, c'est madame Prieur qui a fait une petite enquête.
Auprès des.
Oui.
Oui, j'ai un jeune fils qui a 14 ans et qui se trouve aussi en classe de 4e. Et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de. Demander un peu par l'intermédiaire du professeur de français ce que les élèves pensaient, d'autant plus qu'ils ont par eux-mêmes choisi cette année le thème sur la guerre.
Ah, oui.
Et alors elle leur a fait demander quelques petites phrases qu'elle m'a notées. Et alors la plupart du temps c'est absolument, enfin ils sont... C'est l'absurdité de la guerre qui les révolte. Tous ces morts pour rien, enfin, le pour rien. La guerre remplit les hôpitaux et les cimetières, ça sert à rien. La guerre, c'est la mort d'innocents provoquée par la méchanceté des humains. C'est un massacre, c'est un vrai carnage pour rien. Une devise, enfin, il y en a même un qui a traduit ça sous la forme d'une devise. Le soldat tue pour survivre, tue ou soit tué, quelle est la loi du soldat?
Mademoiselle Merlier, s'il vous plaît, vous aviez donc ces élèves, ces jeunes filles de 4e, c'est-à-dire qu'il y avait 14-15 ans.
Oui.
Pourquoi, alors qu'elles vivaient depuis plusieurs années déjà la guerre, les privations, parfois le père prisonnier, enfin des tas de difficultés, pourquoi avez-vous demandé encore plus, pourquoi avez-vous voulu les plonger encore plus là-dedans, en leur demandant d'écrire justement sur la guerre et ce qu'elle entraînait?
Mais vous savez, elles y tenaient. L'atmosphère, c'était une atmosphère de guerre. On ne pensait qu'à ça. Oui.
Je voudrais demander aux élèves ce qu'elles ont ressenti au moment où elles l'ont fait.
Elles étaient vibrantes devant les événements.
Je crois que nous avions oublié tout le terme exact. On revivait.
Oh, surtout vous aussi.
Hein.
Elle était partout pour voir tout ce qui se passait.
C'était la meilleure élève.
Elle m'a fait 4 de... Non, c'était une des bonnes.
Toutes étaient
de très bonnes élèves. Oui.
Mais
elle m'a fait 4 récits. Songez que... Dans le courant de l'année, je leur ai demandé de me faire un récit dont elles choisiraient librement le sujet. Elles m'ont rendu des devoirs sur la guerre.
Spontanément.
Spontanément. Alors j'en ai quatre de celle-ci. J'en ai trois ou quatre des autres aussi.
Vous aviez des méthodes.
Alors, au lieu de chercher un sujet en dehors de la guerre, elle revenait à mon texte et elle me présentait un événement de la guerre.
Vous aviez des méthodes d'avant-garde, mademoiselle Merlier. Ça n'était pas tellement courant à l'époque que de laisser le choix des sujets.
Si,
à,
ça leur plaisait.
Et maintenant que vous les relisez, donc quelque chose comme un quart de siècle plus tard, madame Epstein, votre fait, quelle impression vous ressentez maintenant?
Les faits sont là, mais ma façon de les exprimer me semble très désuète. Passé. Je suis sûre que ces demoiselles seraient d'accord.
On va leur demander leur avis de style.
Qu'est-ce que vous pensez du style de vos grandes sœurs, si j'ose dire?
Je trouve que c'est très français. Quoi. Ouais. Je ne me serais pas attendue à trouver des rédactions aussi bien rédigées.
C'est vrai, vous feriez pas aussi bien, vous croyez?
Non, bah non, vraiment, parce que pour décrire les scènes, surtout qu'elles ont vécu, il n'y a pas de confusion, enfin, on voit vraiment le déroulement de l'action, je ne me serais pas attendue à ça.
T'aurais passé un peu naïf ?
Oui, en général, les 137 récits sont très bien écrits. Bien écrits, il y en a qui sont très bien écrits. On sent vraiment l'émotion ou bien alors l'enthousiasme.
Vous n'aviez pas de garçon parmi vos élèves ?
Non.
C'était pas encore la mixité. C'était pas la mixité, Jacques. Ouais. Mais il faut souligner, mademoiselle, que tous ces textes sont absolument dans leur intégralité.
Oui, c'est ça.
Ils n'ont absolument pas été...
Oui. Par souci d'authenticité, ils paraissent comme ils ont été écrits. Exactement comme ils les ont produits.
Est-ce qu'il vous arrive de... d'ouvrir des cartons, des valises, des dossiers, puis de reprendre ces textes, de les relire comme ça, puis de rêver un petit peu.
Bien sûr, j'ai beaucoup rêvé, j'ai retrouvé l'atmosphère de la guerre quand j'ai préparé ce livre en relisant tous leurs devoirs, en les triant, en les rangeant par ordre chronologique. Et je les ai soumis à des personnes qui avaient vécu la guerre, à une brave mère de famille, à un inspecteur primaire, à un professeur d'université, tous ont été d'accord qu'il renfermait là une valeur historique que je devais publier. Aussi, je remercie les éditions Juillard, ses collaborateurs et Sylvie Genevoix qui m'ont aidé à les publier.
Je voudrais demander à nos deux petites jeunes filles ce qui, dans tous ces récits ou même dans tout ce qu'elles ont entendu dire à propos de la guerre, s'il y a quelque chose, un fait précis, quelque chose qui les a plus frappées plus particulièrement.
C'est les Allemands qui sont vraiment considérés comme des monstres. Enfin, moi, je sais qu'en entendant parler mes grands-parents, les Allemands, c'était la frayeur, quoi. C'était vraiment repoussant. C'est ça qui me semble sortir le plus dès qu'on parle de la guerre. Tout de suite, moi, je vois les Allemands, quoi. Ceux qui ont le plus marqué.
Cette peur.
Oui. Je sais pas, ça provoque une impression forte en moi quand on me dit... Quand on parle de la guerre tout de suite, je vois les Allemands, ça c'est plus fort que moi.
Pourtant, vous pouvez avoir des petits camarades allemands maintenant, sûrement.
Bah oui, mais...
Mademoiselle Lost, vous arrivez à vous imaginer ce que ça a été de vivre?
J'arrive pas tellement bien à imaginer que la guerre... J'ai quand même appris des choses avec les récits, parce que c'était très bien écrit. Mais il y a encore des tas de questions.
Lorsque vos enfants, mesdames, lisent vos textes, leur moment d'auteur, comment réagissent-ils?
Ils rient beaucoup.
C'est vrai.
C'est bien.
Non, je crois qu'ils sont, enfin, ils sont assez stupéfaits de cette naïveté, enfin, de cette simplicité dont on a écrit les choses. Mais je crois que ça vient des faits qu'on a vécu vraiment et qu'on raconte comme on les a vécus. Ce n'est pas romancé du tout. Moi aussi, j'ai ri en disant ça veut rien dire cette phrase que j'ai écrite. Mais si on se replace dans le contexte de ce qu'on a vécu. Finalement, je trouve que c'est assez vrai et qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de romance autour.
Mais ce sont les adjectifs possessifs, moi, les choses.
Est-ce que comme Mademoiselle Lost, il n'arrive pas à se représenter la guerre ou est-ce que...
C'est-à-dire que, évidemment, on en parle à la maison, on a parlé tout au moins de cette guerre. Et oui, il y a les Allemands qui ont fait peur, mais il n'y a pas que les Allemands parce que. Moi, je me souviens, quand j'avais votre âge, j'habitais au 6e sous les toits, et j'avais très très peur tous les soirs parce qu'il y avait des tireurs sur les toits. Et on nous avait toujours dit, il faut éteindre les lumières, tout ça. Et évidemment, pour apprendre les leçons, il fallait tout de même un peu de lumière. Et je me disais, il y en a un jour qui verra ma lumière et qui rentrera et qui frappera à mon carreau, etc. Et souvent, le soir, j'étais paniquée à cette idée. Alors, bon, c'est une peur, effectivement, de cet âge qu'on a vécu, mais Ça m'a beaucoup marqué, ça.
Est-ce que Mme Lambret, qui aujourd'hui est institutrice, pourrait nous dire, lorsqu'elle laisse, comme Mlle Merlier, la bride sur le cou à ses élèves, est-ce que spontanément, ils font comme ça des textes sur... sur des sujets aussi durs?
Non, certainement pas, parce que quoi qu'ils savent beaucoup de choses avec la télévision maintenant, et les grands-parents apprennent beaucoup de choses à leurs petits-enfants aussi sur la guerre. Mais évidemment, on travaille par le texte libre maintenant, et ce ne sont pas ces sujets qu'ils prennent, vous voyez, ce sont des récits aussi, beaucoup d'actions. Mais évidemment, ils vivent et ont la chance de vivre en temps de paix. Et ce sont les vacances. Et s'ils ont un animal, c'est souvent sur un animal, surtout à l'âge où on les a en primaire. Mais ce ne sont pas ces faits de guerre.
Pour les grands-enfants du primaire, c'est-à-dire ceux qui ont 10, 11 ans, la guerre, c'est quelque chose dont ils n'arrivent mal à saisir la réalité, c'est ça?
Oui, mais vous voyez, j'ai des enfants à peu près de cet âge-là, 10, 11 ans et 13 ans. Et ils veulent qu'on leur en parle. Il ne faut pas évidemment que ça soit traumatisant pour eux, mais je pense qu'il est bon de leur parler tant qu'ils nous le demandent.
Est-ce que vous arrivez à déterminer pourquoi ils souhaitent qu'on leur en parle?
Parce que nous l'avons vécu, et je pense que c'est le respect de l'enfance de leurs parents. Et ils veulent imaginer notre enfance. Je crois que c'est un sentiment...
aux enfants, au plus, que vous avez écrit?
Oui, je leur ai récité, et puis alors j'en leur ai choisi. Et puis ils veulent le lire, enfin, la grande fille a maintenant presque 14 ans, je lui laisserai volontiers, mais enfin, le petit, beaucoup moins. Mais il y a un récit qui est très amusant, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est quand un chien s'abandonne sur la botte d'un Allemand. Et alors là, ils ont trouvé un récit amusant, ils étaient très contents de rire dans ce livre aussi.
Il y a un récit beaucoup moins amusant, mademoiselle, et vous m'en parliez quand nous nous sommes vus la première fois. C'était l'histoire de cette petite fille juive dont le papa a été arrêté.
Oui.
Je crois que là, nous avons cinq dames qui ont toutes des souvenirs de la guerre, bien sûr, mais peut-être pas des souvenirs aussi dramatiques. C'était une de vos élèves qui était dans la même classe. Vous en avez un souvenir de cette petite
fille? Nous avions eu une camarade juive dont les parents étaient horlogers bijoutiers, rue Mouffetard.
Oui.
Mais c'était Martitel, elle s'appelait.
Comment?
Martitel, elle s'appelait.
Martitel.
C'est ça. Oh, je cherchais son nom.
Voilà.
Oh, cette petite...
Alors, ce nom de Josette, je crois, dans l'histoire.
Oui, je me suis trompée de nom. Je me suis aperçue que je m'étais trompée de nom.
Voilà. Alors, c'était Martitel.
Qui a été emmenée, la pauvre,
voilà.
Avec ses parents.
Voilà.
Elle n'a pas voulu être séparée de ses parents. Et on l'a ramassée avec ses parents.
Elle n'en est jamais revenue. Mademoiselle, vous aviez les larmes aux yeux quand vous nous l'avez annoncé. Je m'en souviens, je ne sais pas si mes camarades s'en rappellent.
Elle n'a même pas su son résultat au brevet, au BEPC.
C'était une charmante.
Elle a été ramassée tout de suite après l'oral. Et elle est venue me trouver après l'écrit en disant « Oh, que j'ai eu peur, que j'ai eu peur. On est venu pour prendre mes parents. » Alors je lui dis « Mon petit, écoutez, nous sommes près de la fin de la guerre. Alors, vous allez bientôt être tranquille. » Et puis, elle a passé son oral. On est venu chercher ses parents. Et alors, elle n'a pas voulu être séparée de ses parents. Elle est partie. Elle n'a même pas su le résultat de son BEPC. Et qu'est-ce qu'elle est devenue?
C'était en mai 1944.
En mai 44, juste avant
44,
vous autres.
Oui.
La promotion avant la vôtre.
Et je m'en souviens d'autant plus que j'avais été marquée par le fait que c'était une des rares camarades de l'école qui portait l'étoile israélite. Et elle en avait presque honte de cette étoile qu'elle portait en permanence, qu'elle était obligée de porter par les Allemands. Mais nous avions pour elle de la sympathie.
Elle était très gentille.
Elle était très gentille.
Très gentille. Oui.
Mademoiselle, vous avez là, parce que toutes vos élèves nous ont lu quelque chose, j'aimerais que vous nous donniez aussi lecture d'un joli texte. Là.
Oui. Alors ici, c'est le récit de la pauvre Betty, dont on est venu arrêter le père. Elle a immortalisé son portrait. C'était l'hiver. C'était la nuit. C'était en 1941, la résistance farouche. Les Allemands étaient là. Ils sont venus arrêter mon père. Ils sont venus prendre mon papa. Ils le tenaient, ils le touchaient de leurs mains souillées du sang des innocents. Quel terrible sort était caché dans ce corridor. Un danger inconnu, mais quoi? La pièce semblait grandie. L'Allemand devint un géant devant mes yeux. C'était un ogre gigantesque dont la tête se perdait dans les nuages. Je ne pleurais pas. Je regardais sans comprendre. La tête me faisait mal. Un bruit étrange me tapait aux oreilles. Il augmentait, il devenait de plus en plus fort. Il éclata tout à coup. Les larmes coulaient sur mes joues froides. Quelque chose m'étreignait à la gorge. Mes oreilles bourdonnaient. Mon cœur allait éclater.
mais il ne se brisait pas. Le sang continuait à marteler mes artères. J'ai crié « Papa !» et je lui ai sauté au cou. Une main m'a repoussée. Je suis tombée sur le parquet. Je ne bougeais pas. Je le regardais. Lui, mon papa, il pleurait. Il me souriait. Que ce sourire voulait me dire deux choses. Mon cœur battait comme s'il voulait s'élancer hors de ma poitrine. Il se brisait d'émotion. Je le sentais là, tout au fond de mon être qui tremblait, qui tressaillait, qui remuait. Mes lèvres tremblaient. J'avais un brouillard devant les yeux. Je ne voyais que mon papa. Il tendait ses mains vers moi, ses mains si douces qui me caressaient les cheveux, ses mains si travailleuses. Il me parlait, mais je n'entendais pas. Je ne comprenais pas. Je ne voulais pas comprendre. Mes yeux se troublaient. Ma poitrine se soulevait, je haletais. Maman, toute pâle, le visage mouillé de larmes, avait remis le mince bagage de papa à l'un de ceux qui font horreur. Je ne pouvais plus le voir toujours sur le parquet. J'ai pris ma tête entre mes bras et je restais là sans pleurer et bêter. J'entendis la voix douce de papa, les sanglots de maman. La porte a claqué. C'est fini. J'entends encore des pas. Des sanglots. Maman, ma pauvre maman est seule. Et moi, immobile, je ne pouvais rien lui dire. De nouveau, la porte s'est refermée. Maman est sortie. Je me suis relevée. J'ai couru à la fenêtre. Trop tard. Il ne me reste plus que l'ombre de mon père.
T'en imagines que c'est une petite fille de 14 ans qui a écrit ça. Bien, je crois que nous allons nous séparer. C'est un petit peu dommage que nous nous séparions sur une note aussi mélancolique. Quelque chose à ajouter? Je vous vois toutes, mesdames, un petit peu...
Oui, Madame Lambrecht. C'est-à-dire, on est encore au récit. Et...
Oui.
Évidemment, on avait des sujets qui étaient...
Oui, les enfants choisissent toujours des sujets très graves.
Oui, enfin, là, malheureusement, nous les avions, nous, nos sujets, ils étaient... On avait la facilité du thème, bien sûr.
Oui. Et Mademoiselle Merlier l'a lu d'une façon remarquable, si bien qu'on est tous pris, vraiment. Merci en tout cas, merci à toutes d'être venues retrouver Mademoiselle Merlier. Merci Mademoiselle Merlier. À vous aussi, Mademoiselle, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous rappelle que si vous avez envie de lire ces récits, ils sont jolis, de les faire lire à vos enfants, vous pouvez les trouver, sont édités aux éditions Julliard, sous le nom d'Octavie Merlier, sous le titre de Rédaction. Je vous souhaite encore une fois une bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous à lundi. Lundi, ensemble, nous visiterons le musée du Louvre que 8 conservateurs nous feront visiter. Au revoir, à lundi.
Dans un instant, vous allez voir un nouveau...